C'est pas toujours très confortable d'être devant vous. Je pense que ceux qui y sont peuvent confirmer ce ressentiment. Et ça l'est même jamais en ce qui me concerne. Parce que quand on est devant, on est aussi responsable de ce qu'on dit. Les apôtres, notamment Paul, disaient « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ ». Et lui, il avait une crédibilité quand il enseignait. Ce matin, j'en ai aucune. Mais la parole a toute sa crédibilité et je vous encourage à vraiment prendre pour autorité non pas l'enseignant, mais la parole ce matin. Et effectivement, nous allons donc encore parler d'amour. Richard a bien fait de rappeler que la dernière fois, nous avions vu aussi ce commandement, mais pas tout à fait le même. On s'était intéressé au commandement qui est dans l'Ancien Testament, sur « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même ». Et ça, c'était déjà annoncé dans le Pentateuque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous sommes dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. L'ancien commandement, le degré minimal d'amour, était un amour qui avait ses limites. Il était basé sur notre amour de nous-mêmes. Aimez vos prochains comme vous-même. Il nous disait d'aimer notre prochain tant que nous n'étions pas en danger, nous-mêmes. Mais si nous sommes en danger, eh bien, l'amour du prochain est terminé. Voilà le minimum. Et bien sûr, nous, on pense que c'est déjà le maximum. On pense que c'est même déjà trop. Et en fait, même si quelqu'un dans l'Église me disait qu'il m'aime comme son prochain, je devrais en être offensé. Je ne suis pas votre prochain, et vous n'êtes pas mon prochain, mes prochains. Je suis votre frère, et vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Et c'est différent. Nous ne sommes pas deux familles vivant à proximité l'une de l'autre. Nous sommes une même famille, nous sommes un même corps, nous dit l'Écriture. Alors, les disciples ont peut-être dit « Nous connaissons les 10 commandements par cœur, mais ça, en Jean 13, 34, bon, ils n'avaient pas encore les références, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je vous donne un commandement nouveau, ça doit être le 11e commandement. » En tout cas, lui, Jésus se souciait assez peu de comment ils appelaient ce commandement, du moment qu'ils obéissaient. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Oui, ça on le sait déjà, les disciples pouvaient dire à l'époque. Mais Jésus rajoute, « Comme je vous ai aimé. » Ah oui, ça c'est quelque chose d'effectivement nouveau, et même de plutôt étrange. L'ancien commandement disait, « Aime ton prochain comme toi-même. » Ça d'accord, le nouveau commandement dit, « Aime ton frère comme moi je t'ai aimé, comme Christ t'a aimé. » Comment Jésus nous a-t-il aimés ? Nous a-t-il aimés comme il s'aimait lui-même ? Non. Il a fait plus que ça. Il nous a aimés plus qu'il ne s'est aimé lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Dans ce degré d'amour-là, le moi, l'ego, disparaît. Nous devons aimer, aimer et encore aimer. Jusqu'à quand ? Jusqu'à toujours. Même si cela doit nous coûter la vie. C'est bien plus que de donner la moitié de son assiette. C'est bien plus que de fournir le même effort pour donner de la nourriture à son prochain que l'effort qu'on a produit pour s'en procurer nous-mêmes. Là, c'est donner toute l'assiette. Et avec nous en prime. Voilà le degré d'amour que Jésus attend pour son Église, pour sa famille. C'est la qualité d'amour destinée à régner dans notre communauté chrétienne. Je ne puis aimer mon frère comme je m'aime moi-même parce que le moi est parti. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, je pense que c'est pareil pour vous, on a déjà beaucoup de mal à donner à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? C'est difficile de donner. Une grande barrière nous retient. Et cette barrière, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme. Cette barrière, il faut qu'elle soit abattue. Si elle n'est pas abattue, on ne changera jamais l'Église. Alors nous, bien souvent, quand on est devant la chair, on essaye de modifier les choses, mais on ne le peut pas. Chacun de nous doit changer la structure de notre propre vie. À chacun est cette responsabilité. Chacun de nous doit changer la structure de sa propre vie qui, jusque-là, il faut bien le reconnaître, a été basée sur nous-mêmes, sur le moi. Et si on prend l'image d'une maison, je parle de la structure interne de la maison qu'il faut changer. Je parle de la partie qu'on ne voit pas derrière les crépis, les habillages et les faux plafonds. Je pense qu'on est plutôt bon quand il s'agit de décoration intérieure dans notre église, quand il s'agit de poser un faux plafond ou un beau crépi. Mais la structure interne, si on y réfléchit, c'est pas toujours très beau. Il nous arrive parfois d'apporter un grand nombre de changements à la maison qu'est notre personne, mais sans jamais toucher à la structure fondamentale. Alors, on peut fermer la fenêtre qui laisse entrer le tabac et ouvrir la fenêtre de la réunion d'études bibliques. On peut bloquer l'ouverture qui donne accès à la télévision et au télécrochet et ouvrir celle de la répétition de chorale. Nous pouvons fermer la fenêtre de l'alcool et ouvrir une fenêtre du soutien financier à l'Église. On peut installer des tapis, on peut prendre des nouveaux rideaux, de nouveaux papiers peints. Mais ce n'est pas ça que le Christ nous demande. Quand on fait ça, la structure de nos maisons reste la même. Elle est encore une ossature en forme de moi. Et les problèmes finissent par ressortir. Jésus, il veut plus que de ne simplement changer les rideaux ou l'ouverture de fenêtre. Sa croix signifie la mort de l'ancienne structure. Il nivelle toute la maison et on repart de zéro. Il y a un vieux chant gospel, j'ai essayé de faire la traduction, qui dit « Laisse ton lourd fardeau à la croix et pars libre, ô pécheur, pars libre !» Et je crois que ce n'est pas encore suffisant. Se débarrasser du fardeau du péché, c'est bien, mais ce n'est pas bien si le moi reste et repart identique à ce qu'il a toujours été. À la croix, il nous faut passer par une déflagration atomique qui non seulement fera sauter notre fardeau de péché, mais détruira aussi notre structure en forme de moi qui devra être remplacée par une structure à l'image de Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement jeter notre personnalité et notre moi. Je vous demande de l'abandonner et de la remplacer par une identité en Christ. Imaginez-vous, vous êtes habillé en jogging au champ. Allez, je ne sais pas si ça existe encore. Un jogging sans marque. Bon, pas mal, hein, un petit peu rapiécé, tout ça. Et puis, je vous demande de vous dévêtir. Parce que je trouve que votre jogging, il ne vous va pas très bien. Et si vous le faites, je vous donne un costume de grand tailleur, de grand couturier. Mais c'est ça que Dieu fait pour nous. Sauf que ça sous-entend quelque chose, c'est qu'on enlève le survêt au champ. S'abandonner pour se réaliser pleinement dans l'identité en Christ. Alors, dans le baptême, c'est plus que le tabac, l'alcool ou le jeu qui reste sous l'eau. C'est le moi. Il faut que les gens le comprennent. Quand ils ressortent de l'eau, ils y laissent leur moi. C'en est fini pour eux. C'est un être totalement nouveau qui désormais commence à vivre une vie d'obéissance. Et il est essentiel qu'on comprenne ça. Et c'est encore possible. Alors nous, Au pupitre, on dit souvent qu'il nous faudrait avoir davantage de partage les uns avec les autres. Il nous faudrait passer plus de temps ensemble, entre frères et sœurs. Mais bien souvent, nous, responsables, nous, enseignants, ou même nous, membres, on dit « Mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de passer du temps avec mes frères et sœurs. Je suis tellement occupé par mon travail, mes études, ou même mon propre ministère. » Frères et sœurs, il faut que nous nous l'avouons. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Le temps, nous l'avons. Nous avons 24 heures par jour. Comme tout le monde. Pourquoi ne sommes-nous pas assez honnêtes pour dire « J'ai le temps, mais il est tout occupé par moi-même et mes affaires. » Au moins, nous ne serions pas hypocrites si on disait ça. Nous reconnaîtrions notre vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire profondément égoïste. Qui peut obéir alors au nouveau commandement ? Qui peut aimer ses frères comme Jésus nous a aimés ? Vous croyez que c'est possible de le faire ? Ben, je pense que Jésus-Christ n'est pas un maître sadique qui nous donne des règles qu'il est impossible de réaliser. Dieu nous donne aussi les moyens de le faire. Cela doit être possible de le faire. En parlant de commandement, Jésus devait s'attendre à ce que nous obéissions. Et ce commandement, il l'a donné à vous et à moi. Il nous faut volontairement trouver le temps pour aimer. Et on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un jeune étudiant dans une église, un étudiant qui semble toujours débordé de travail. Et à chaque fois qu'un membre lui demande quelque chose, il répond « Oh, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas le temps. Je poursuis mes études et en plus j'ai un travail pour le financer qui me prend 8 heures par jour. Alors, vous vous imaginez bien que je n'arrive pas à faire cela en plus. J'arrive encore à venir à la réunion une fois par semaine, mais le reste du temps, je suis pris. » Et imaginons qu'un jour, ce jeune homme tombe amoureux. Et comme c'est bizarre. Tout à coup, il a le temps de rendre visite à sa fiancée. 3-4 fois par semaine. Comment a-t-il fait ? J'ai une petite idée. C'était peut-être à cause de son amour pour sa fiancée. Quand nous disons que nous n'avons pas le temps, nous donnons une preuve de notre manque d'amour et de notre égoïsme. Nous voulons dire en fait que tout notre temps est pris pour bâtir notre petit royaume personnel. Jésus avait 24 heures chaque jour, comme nous. Sauf que lui, c'était 24 heures pour les autres, chaque jour. Il n'avait rien de personnel à faire. Pourquoi ça ? Parce qu'il portait une croix sur ses épaules. Et vous savez quoi, frères et sœurs, il nous a invités à porter notre croix aussi. Savez-vous ce que ça veut dire que de prendre sa croix ? Bon, il y en a certains qui pensent que c'est peut-être recevoir la visite de sa belle-mère. C'est pas mon cas, hein. Mais non, c'est pas ça la croix. Quand un juif voyait quelqu'un dans la rue portant une croix sur l'épaule, croyez-moi, il savait ce qu'il allait lui arriver à cette personne. Cette personne allait mourir. Jésus vous a dit de prendre votre croix et de vivre comme si vous étiez mort. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt pour qu'à tout moment, la croix soit allongée par terre et que vous y soyez cloué ? Si c'est le cas, eh bien on a compris ce que c'était l'amour pour notre prochain et surtout pour nos frères et sœurs. Et si c'est le cas, nous n'aurons aucun mal à mettre en œuvre ce nouveau commandement. Bien, petit quiz très simple, je pense. Jean 3,16, qui peut me le réciter ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Deuxième question. 1 Jean 3,16. C'est plus compliqué. Je me suis retrouvé dans cette situation-là il y a quelques années quand j'étais devant vous au repas du Seigneur, et trop de confiance, je dis bon, ça va, je vais prendre Jean 3,16. Et j'ai pris 1 Jean 3,16, je me suis retrouvé devant ce passage-là. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Jusque-là, j'étais dans le thème. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3,16. C'est marrant, on ne trouve pas ce verset dans les cartes postales qu'on peut-être trouver ici. J'ai vu aussi que Milly hier avait reçu comme cadeau, lors de la soirée de Noël, un petit livre, ou je ne sais pas si c'est des cartes, de messages de paix. Et souvent, ce passage-là, on ne le retrouve pas dans les cartes postales. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça serait marrant de pouvoir faire une série de cartes en y mettant tous les versets qu'on ne souligne pas dans nos Bibles, et celui-là doit en faire partie. Mais je pense que l'effet serait sans doute surprenant. Encore une fois, l'apôtre Jean nous donne un test très simple en 1 Jean 3,16. Connaissons-nous l'amour ? C'est très facile à savoir. Point n'est besoin de don du discernement des esprits ou de faire des miracles. Demandez-vous simplement si vous êtes prêt à donner votre vie pour votre frère. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est aussi notre frère. Il ne faut pas l'oublier. Alors, pensez à un frère bien précis ou une sœur dans l'Église. Seriez-vous prêt ou prête à mourir pour elle ou pour lui ? Voilà la qualité d'amour du nouveau commandement. Il faut que nous tombions amoureux de nos frères et sœurs à en mourir. Si quelqu'un vous présente à une jeune fille ou un jeune homme, vous ne pouvez pas dire « Bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre, je suis très heureux de vous connaître, venez, on va se marier. » Il est d'abord nécessaire que vous tombiez amoureux de cette personne. Et nous aussi, il est d'abord nécessaire que nous tombions amoureux des autres frères et sœurs avant de les inviter à la mairie pour les épouser. Parlons un petit peu de nos réunions. Nous sommes dans la communion, bien sûr, dans l'adoration, dans la louange, dans l'enseignement, rechercher la proximité avec notre Seigneur. Mais une réunion n'est généralement pas prévue pour avoir de la communion fraternelle. Je m'explique. Si la réunion commence à 10h30, nous arrivons à 10h29. Je suis très optimiste. On se salue, après quoi nous nous asseyons et nous nous regardons la nuque pendant 1h30. À la fin de la réunion, on se dit au revoir et puis on se quitte. Où est la communion fraternelle ? Les chrétiens se rassemblent et disent « Bonjour, ça va ? Bien le bonjour chez toi, hein ?» chaque dimanche pendant 20 ans, et cela ne va jamais plus loin. La structure de nos réunions ne donne pas forcément la possibilité d'une démonstration d'amour et de communion fraternelle. Avez-vous jamais vu un fiancé qui dise à sa fiancée « Bonjour, ça va ? Et ta famille ?» Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne cesse de grandir dans la communion jusqu'à ce qu'il ne puisse rien faire d'autre que de se marier. Et c'est exactement ce qui doit se passer entre nous. Nos âmes et nos esprits tout entiers doivent être éveillés à nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Alors, pour nous aimer véritablement, comme le Christ nous a aimés, on ne commence pas par faire des réunions. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais on ne commence pas par faire des réunions. On commence par dire d'abord à Dieu, « Seigneur, je vais dégager le temps pour aimer 2 ou 3 frères et sœurs de mon Église. Je vais écrire leur nom ici, et pour l'instant, je le confesse, Seigneur, je ne les connais même pas, ou à peine. » Mais maintenant, je vais aimer parce que tu m'as commandé de le faire et que je veux t'obéir. Quelqu'un dira, frère, vous avez raison, l'amour est un commandement, mais si Dieu ne nous donne pas cet amour pour cette personne, alors on n'y arrivera pas. qu'est-ce qu'on est malin des fois, hein, pour nous esquiver à l'invitation de l'amour. Dieu nous dit de faire quelque chose et nous retournons la chose tant et si bien qu'on la repose tout droit entre les mains de Dieu. Nous prions « Oh Dieu, donne-moi de l'amour pour ce frère » et puis nous pensons que si nous n'aimons pas, ce n'est pas de notre faute, c'est parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Mais non, l'amour c'est un commandement. L'amour est une action. L'amour est une volonté. Nous n'avons pas besoin de demander d'où viendra l'amour. Il nous suffit de commencer à obéir à notre Seigneur. Et quand nous obéirons, des choses commenceront à se passer. Je vous raconte l'histoire d'un pasteur qu'on a cité récemment, Juan Carlos Ortiz. Et il se pose cette question, comment vais-je tomber amoureux des deux ou trois personnes de ma liste ? D'abord, je commence par prier pour eux chaque jour pendant une semaine ou deux. Bon, c'est une méthode, hein, je ne dis pas qu'il faut l'appliquer, mais voilà ce qu'il fait, lui. Je me renseigne pour savoir s'ils ont une famille ou de la parenté. Je me renseigne également sur le nom de leurs enfants et je prie pour eux aussi. Je prie pour leurs femmes. Je passe devant la maison en voiture et je me dis, Seigneur Jésus, bénis ce foyer. Et puis quand enfin je suis tombé amoureux d'eux, je vais les voir. Avec mon cœur débordant d'amour, je frappe à la porte. Bonjour, je suis bien chez Monsieur Martin ? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis le pasteur Ortiz et je suis venu vous rendre visite. Monsieur Martin est très surpris. Eh bien, entrez, dit-il, que me vaut votre visite ? Eh bien, je suis juste venu vous rendre visite, mon frère. Monsieur Martin de répondre, écoutez, je suis plutôt occupé aujourd'hui, alors dites-moi tout de suite ce que vous avez sur le cœur, la raison principale qui vous a amené à faire un saut chez moi, si j'ai fait quelque chose contre vous, dites-le maintenant. Le pasteur répond, la raison principale, je désirais tout simplement vous connaître. Mais je vois que vous êtes occupé, alors je ne resterai que 5 minutes. Est-ce que vous avez eu une bonne réunion dimanche ? Comment M. Martin pourrait refuser de répondre à cette question ? Alors il dit, oui, c'était une assez bonne journée, j'étais content de la prédication, les gens étaient bien réceptifs au message de l'enseignant, l'offrande était très bonne, près de 1000 euros quand même. Alors dans l'ensemble, ça va, nous allons bien. Je m'en réjouis, répond le pasteur, vous avez aussi une famille ? Oui, répond Monsieur Martin, une femme et 3 enfants. Justement, ma femme est malade en ce moment. Je regrette beaucoup, répond le pasteur. Je vais m'en aller maintenant, mais on pourrait prier avant que je vous quitte. Merci Jésus pour cette maison, pour ce frère, pour les bonnes réunions qu'il a eues, et je te prie pour sa femme aussi. Guéris-la, aide-la. Amen. Bien, merci pour tout, Monsieur Martin. Au revoir. Et pendant qu'il referme la porte, derrière moi, c'est toujours le pasteur qui parle, il se dit à lui-même, « Pauvre homme, il vaut mieux que je passe un coup de fil à son supérieur. Il est peut-être surmené, c'est un grand problème chez les pasteurs. » Alors, il appelle son supérieur, « Allô, vous êtes bien le supérieur du pasteur Ortiz ?»« Oui, oui. Eh bien, écoutez, il est venu chez moi, mais je crois qu'il... » Il est débordé, et il est venu sans raison particulière. Je crois que ça va pas trop pour lui. Vous savez, les pasteurs, ils ont une grande charge de travail. Gardez-le un petit peu à l'œil. Je vous en saurai gré. Gardez un œil sur lui. Au revoir. Et la semaine d'après, le pasteur Ortiz est encore là. Il frappe à la porte. Monsieur Martin regarde par la fenêtre et s'exclame « Oh là là, encore le toqué qui est là. Heureusement qu'il ne reste pas longtemps. » Alors, Monsieur Martin va ouvrir. « Bonjour, c'est le pasteur Ortiz, comment allez-vous ? » ?»« Très bien, » répond M. Martin, « merci. »« Que désirez-vous ? » ?»« Eh bien, je suis juste venu vous rendre visite. » Il sait déjà qu'il faut qu'il m'invite à entrer, nous raconte le pasteur Ortiz. « Comment va votre femme ? » ?»« Vous savez, ma femme et moi, nous avons prié pour vous. » D'ailleurs, ma femme voulait venir voir votre femme, mais elle n'était pas sûre que votre épouse soit en état de recevoir de la visite. En tout cas, elle vous envoie ce petit cadeau. Et Monsieur Martin répond, merci beaucoup, dites à votre femme qu'elle peut certainement venir si elle le désire. Alors, est-ce que vous avez passé un bon dimanche ? Excellent, frère, une très bonne réunion. Eh bien, frère, répond le pasteur Ortiz, prions et puis je vais vous quitter. Merci, Seigneur Jésus, de ce que la femme du frère Martin se porte mieux. Amen. Au revoir, Monsieur Martin. La semaine d'après, le pasteur Ortiz frappe encore la porte, et toutes les semaines qui s'en suivront. Et à la cinquième semaine, l'histoire dit que M. Martin attendait à la porte. L'amour, c'est le bœuf qui tire la charrette de la fraternité. Ne mettez pas la charrette avant le bœuf. Aimez d'abord et ensuite seulement faites part de vos sentiments. Est-ce trop difficile ? Jésus a dit que nous devions donner notre vie pour les frères. Alors, aller rendre visite à un frère, est-ce que c'est trop difficile ? Est-ce que c'est bien moins que de donner notre vie ? Ça n'est que le commencement. L'amour, c'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme la plus puissante qui existe au monde. Pas une arme pour détruire, mais une arme pour convaincre, une arme pour montrer qui est Dieu aux autres. Jésus gagne, et il a gagné le monde par l'amour. Pas par l'amour du prochain, par l'amour du frère que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous. Il nous invite à faire la même chose. Amen.